J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop, plus moins calme.
You talking to me? You talking to me? Well, then who the hell else are you talking to? Talking to me?
Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre.
Eastwood. Clint Eastwood.
Marcello, come here.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à vous qui nous rejoignez dans Cinescence ce mardi 3 février 2026. Il est 14h pile, oui encore comme hier et comme demain sans doute. Aujourd'hui, nous allons vous embarquer une nouvelle fois dans l'univers magique du 7e art, l'endroit où tout devient possible. Des histoires incroyables, des personnages inoubliables, des émotions fortes et parfois même quelques sueurs froides. Nous allons retourner dans une année où les salles étaient pleines, où les projecteurs ronronnaient et où le cinéma connaissait une véritable effervescence. Pour parler de ce bon vieux temps, j'ai avec moi en studio celui qui connaît l'année en question comme sa poche. Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour Annelise, je ne connais que le premier semestre.
C'est vrai ?
Oui, je laisse le deuxième à mon camarade.
Et aussi celui qui se fait discret mais qui vient directement de ce passé lointain.
Ça,
bonjour
se voit.
Patrick.
Eh bien, je vais me faire discret, je vais parler
doucement.
Parler doucement. Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour.
Bonjour Annelise.
Patrick. Et on a aussi
bonjour,
avec
Laurane.
Nous Laurane
bonjour,
en régie.
Laurane, en régie.
D'accord.
Allez, embarquement immédiat.
Oui.
Cette année-là.
Et cette année, Patrick, c'est 1965.
Tout à fait, Thierry. Annelise, pardon. 1965, figurez-vous que la contraception orale ou pilule est progressivement dépénalisée et commercialisée dans les pays occidentaux. Aux États-Unis, elle devient définitivement légale dans l'intégralité des 50 États après une décision de la Cour suprême, mais uniquement pour les femmes mariées. Il faudrait quand même voir, à pas plaisanter les autres, ça attendra 72.
Ouais, vous vous rendez compte. Enfin, le 9 février,
oui.
L'humoriste Pierre Dac crée le parti du Mou.
Oui.
C'est le mouvement ondulatoire unifié. Et il annonce sa candidature à l'élection présidentielle française. Il se retirera à la demande du général de Gaulle. Alors, un mois plus tard, les États-Unis s'engagent dans la guerre terrestre au Sud-Vietnam. Oui, le processus meurtrier est enclenché. Il fera 1,5 million de morts vietnamiens et près de 60 000 Américains.
En fin de ce premier trimestre aux États-Unis, 3 200 marcheurs partent de Selma le dimanche 21 mars, parcourant 20 km par jour et dormant dans les champs. Au moment où ils atteignent le Capitole de Montgomery, le 25 mars, les marcheurs sont 25 000. Martin Luther King prononce alors le discours « How long, no long ?» Combien de temps ? Pas longtemps, car l'arc de l'univers moral est long, mais il se courbe vers la justice.
« How long, not long ? »
Yes, sir.
Because no lie can live forever.
Yes, sir.
How long? Not long.
How long?
Because you shall reap what you sow.
Yes, sir.
How long? Not long.
How long?
True forever on the scaffold, wrong forever on the throne.
Yes, sir.
Yet that scaffold sways the future.
Yes.
Behind the dim unknown standeth God within the shadow, keeping watch above his own. How long? Not long. Because the arc of the moral universe is long, but it bends toward justice.
Yes, sir.
How long?
Not long.
Because mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord.
Yes,
he's trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored.
Yes, sir.
Yeah. He's loosed the fateful lightning of his terrible swift sword.
Yes,
his truth is marching on.
Yes,
he has sounded forth the trumpet that shall never call retreat.
Peace,
he is sifting out the hearts of men before his judgment seat.
Yes,
oh, be swift, my soul, to answer him. Be jubilant, my feet. Our God is marching on.
Yes.
Glory, hallelujah.
Yes,
glory, hallelujah.
Alors, notre langue,
alléluia.
Il faut voir. Hein. Malheureusement, ce n'est pas d'actualité.
Non.
Le 11 juin 65, avec sa projection au Festival de Cannes, Répulsion de Roman Polanski ouvre une trilogie thématique mettant en scène une histoire horrifique se déroulant en grande partie au sein d'un appartement. Alors, c'est le deuxième long métrage de Polanski est l'une des œuvres maîtresses de son travail. Ce thriller psychologique, son premier en langue anglaise, amorce donc une trilogie qui comprendra, outre Répulsion, Rosemary's Baby et Le Locataire. Il tourne ainsi autour des thèmes de l'isolement, de l'enfermement, de la folie et de la dualité, des thèmes qui deviendront quasiment obsessionnels chez Polanski.
Carole Ledoux, jeune manucure belge, vit à Londres avec Hélène, sa sœur aînée. Elle travaille dans un institut de beauté. Elle est introvertie et a des problèmes relationnels avec les hommes. Elle se montre plutôt farouche avec son amoureux, Colin, et n'apprécie pas Michael, l'amant de sa sœur, un homme marié assez vulgaire. Quand Hélène part avec Michael en Italie, Caroline glisse vers une schizophrénie qui lui rend insupportable toute apparition masculine.
Alors, dans le document de Lina qui va suivre, Roman Polanski parle du film et du personnage incarné par Catherine Deneuve.
Depuis 2 ans, je travaille avec mon ami qui s'appelle Gérard Brache, avec qui j'ai écrit justement ce scénario. On avait envie de raconter une histoire sur une fille qui est folle et dont la folie, son entourage ne se rend pas compte. Et elle est très timide, avec tout le monde, sauf avec sa sœur, parce qu'elle se sent plus à l'aise avec elle. Et c'est la seule personne avec laquelle elle parle d'une voix normale, autrement elle part toujours avec une voix très basse. Quand le film commence, elle est déjà bien folle, hein. Faut le dire. Il y a quelques épisodes pendant le film qui poussent cette folie. Il y a un certain pourcentage d'épouvante dans ces films, mais c'est pas un film d'épouvante proprement dit. D'ailleurs, quand je me suis mis à écrire ce film, je croyais que ça sera beaucoup plus un film d'épouvante que c'est maintenant. Quand j'ai commencé à le tourner, je me suis aperçu que je ne suis pas capable de faire ça. Et de cette manière, vous comprenez. Donc, je recherche toujours une facture, si vous voulez, réaliste. Enfin, c'est assez superficiel parce que ce qui se passe derrière, c'est souvent presque surnaturel. Mais la facture, elle reste toujours réaliste.
Répulsion analyse avec acuité la paranoïa urbaine, l'aspect oppressant, brutal et kafkaïen de la vie dans une grande ville. Les habitants vivent isolés et solitaires d'une part, mais aussi entassés les uns sur les autres dans des appartements exigus et mal insularisés d'autre part. Polanski joue sur la spécificité de la ville de Londres, avec ses jeunes playboys en voiture de sport qui se racontent leurs exploits sexuels au pub du coin. Incapable de trouver sa place dans cette société, Carole, et non pas Caroline, subit la souffrance du déracinement.
Mais voulez que je vous dise, moi, la grande singularité du film est de nous proposer un voyage à travers la folie, mais vu de l'intérieur, en adoptant la perception de Carole. Polanski fait partager l'expérience traumatisante de celle-ci, hypersensible aux moindres détails de son environnement et vivant prostré dans ses terreurs. Le noir et blanc tient une place importante et permet d'exprimer la dualité du personnage ainsi que la différence entre l'extérieur et l'intérieur. Carole est une blonde lumineuse incarnée par une Catherine Deneuve, aussi fragile qu'inquiétante. Il faut bien le reconnaître, très loin des rôles qu'elle jouera par la suite. Et Carole finit par s'enfermer dans son appartement sombre aux rideaux tirés. Dans de nombreux plans, Polanski filme le visage de Deneuve entre l'ombre et la lumière pour mieux montrer la schizophrénie du personnage.
Dans la bande originale, on retrouve Sophisticated Trailing de Chico Hamilton. Thank you. L'histoire du deuxième trimestre commence dans l'espace. Le 6 avril, lancé à bord d'une fusée au Cap Kennedy, Intelsat 1 devient le premier satellite de télécommunication à usage commercial au monde. Pendant ses 4 années d'opération, il permettra la transmission, presque simultanée, d'une foule de communications de part et d'autre de l'Atlantique.
À part ça, calme plat en ce mois d'avril. Ah si. À Loconville dans l'Oise est mise à l'honneur le 15 du mois, puisque c'est à l'église Saint-Lucien de ce petit village que se déroule le mariage de Johnny Hallyday. Et de Sylvie Vartan.
Vous faites très bien, Sylvie Vartan.
Je fais très bien, Sylvie Vartan.
Bon, alors, des tensions persistantes au sein du gouvernement algérien entraînent le renversement le 19 juin du président Ahmed Ben Bella.
Ouais.
Le coup d'État est orchestré par les militaires et Ben Bella est remplacé par le ministre de la Défense, Wari Boumediene. Tiens, écoutez le témoignage d'un journaliste italien à Orly de retour d'Alger. C'est un document de l'INA.
J'ai vu personnellement dans la rue Michelet, près de la Casbah, beaucoup de jeunes, encadrés quelquefois pour des femmes, qui criaient « Yaya Ben Bella », qui demandaient la libération de Ben Bella. Dimanche, il y avait une calme qui était une calme apparente. J'ai l'impression que les gens étaient très surpris pour les événements de la nuit de vendredi, entre vendredi et samedi. Les gens réfléchissaient, ils se demandaient pourquoi Ben Bella, qui était l'héros de la révolution, était devenu tout de suite un traître, n'est-ce pas, un tyran.
Possède-t-on quelques renseignements sur le sort qui a été réservé à M. Ben Bella jusqu'ici?
Eh bien, les milieux officiels se refusent de donner aucun renseignement à ce sujet. J'ai entendu dire dans des milieux proches de certaines ambassades que Ben Bella serait toujours vivant. On dit qu'il est dans le sud d'Alger. Et j'ai entendu dire, pour des éléments kabyles qui sont à Alger, qu'il serait blessé.
Oui. Eh oui, le troisième trimestre nous fait sortir d'une certaine manière du Moyen-Âge.
Moyen-Âge.
Oui, en effet, le 13 juillet. Hein. Oui. Tout à fait, vous êtes bien précis. Hein. Le Parlement français vote une loi autorisant les femmes mariées à travailler et à ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de leurs époux.
Ah bon ?
Incroyable.
Quel scandale. Incroyable. Mais le lendemain, figurez-vous, le lendemain, c'est la fête nationale du 14 juillet. Eh bien, cette fête nationale est marquée par l'exploit du cycliste français Jacques Anquetil, qui tente et réussit le doublé Dauphiné libéré Bordeaux-Paris.
Ouais, c'est unique.
Ce projet paraissait fou, car Bordeaux-Paris, le marathon du cyclisme avec ses 600 kilomètres, partait de Bordeaux la nuit à 1h50, soit 8 heures seulement après l'arrivée du Dauphiné libéré à Avignon.
C'est incroyable, c'est une performance unique.
C'est formidable, oui.
2 jours plus tard,
paf,
le général de Gaulle et le président italien Giuseppe Saragat inaugurent le tunnel du Mont-Blanc long de 11,6 km. Et puis, au beau milieu de l'été, le 15 août, les Beatles jouent au Shea Stadium de New York devant 55 600 personnes.
Incroyable.
Et bien, c'est le premier groupe de musique rock à se produire dans un stade.
Lazy. Combien de fois j'ai vu les mêmes films qui repassent comme ça, deux, trois fois dans l'année. Moi, je trouve que c'est dingue.
Oui, c'est dingue, vous
l'avez
reconnu.
C'est dingue, mais t'es pas obligé de les regarder deux ou trois fois, enfin quoi.
Mais dites donc, calmez-vous un petit peu.
Je réagissais parce qu'elle nous dit toutes les semaines qu'elle les regarde deux ou trois fois.
Eh ben oui,
elle n'est pas obligée non plus.
Non, mais elle a le droit. Bon, d'ailleurs, c'est notre petite jingle, vous l'avez reconnu, pour ciné, téné et canapé.
Ténet.
Ça va être compliqué aujourd'hui.
La faute
dites
à qui
donc, hein.
Bon, alors, oui.
Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver à la télé cette semaine?
Alors,
on commence par vous, Patrick.
Eh ben, je choisissais entre le 1 et le 2.
Le 1.
Le 4.
Non, pas le 4, je n'ai pas dit le
2.
Le 2.
Le 1.
Merci, Jean-Jacques. Le 2. Alors, c'est un film. Non, parce que le 1, j'en ai déjà parlé.
Oui,
donc
si vous voulez, avançons un tout petit peu.
Alors, c'est un film qui passe le 4 février, c'est-à-dire demain soir.
À quelle heure et où?
À 20h50, 22h50, pardon, sur Canal+.
D'accord.
Et donc, c'est quoi le titre?
C'est un film d'Emmanuel Courcol.
Ça arrive.
De 2024.
D'accord.
Avec Benjamin Laverne, Pierre Lottin et Sarah Souko.
C'est la fanfare.
En fanfare, absolument, qui est un film absolument magnifique, qui m'a arraché des larmes quand je l'ai vu au cinéma. D'émotion. C'est vraiment un film très émouvant. Le petit pitch qui va bien.
Oui, allez-y.
Alors qu'il souffre d'une leucémie et se met en quête d'un donneur compatible, Thibault, le chef d'orchestre de renommée internationale, apprend deux choses. D'abord qu'il a été adopté. Et qu'ensuite, qu'il a un frère. Ce frère, Jimmy, est employé de cantine scolaire et il joue du trombone dans une fanfare du nord de la France. Alors, tout les sépare, hein, évidemment, c'est pas le même niveau social, sauf l'amour de la musique. Et détectant des qualités musicales, des capacités musicales exceptionnelles de son frère, Thibaut va se donner pour mission de réparer l'injustice du destin et Jimmy de se prendre à rêver d'une autre vie. Alors, pour moi, c'est vraiment un vrai coup de cœur et un coup au cœur. Benjamin Laverne et Pierre Lottin sont extraordinaires tous les deux. Et rien que d'en parler, j'ai la voix qui se loue d'émotion. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais je suis prêt de pleurer. Là.
Vous voulez un mouchoir, Patrick?
J'en ai, merci.
D'accord.
Jean-Jacques. Voilà.
Pierre Lottin, par ailleurs, est un très bon pianiste.
Très, très bon pianiste.
Oui.
Et Benjamin Laverne également.
Également, mais un peu moins. Enfin, bon,
mais Pierre Lottin est un très, très bon pianiste.
Annelise, vous voulez me dire quelque chose?
Quel est votre film?
Alors, mon film, on va rester avec Polanski. Ça va vous faire plaisir. C'est demain soir aussi, mais c'est à 21h sur Canal+, grand écran.
Grand écran, bah oui.
C'est Le Pianiste, réalisé en 2001.
Avec Adrien Brody, c'est bien ça.
Oui.
Alors, avec ce film, on se retrouve pendant la Seconde Guerre mondiale à Varsovie. Et là, il y a Władysław Pilman, qui est un célèbre pianiste, très célèbre pianiste juif polonais, qui se retrouve parqué dans le ghetto de Varsovie. Alors, il arrive à s'en sortir, il va se réfugier dans les ruines d'un appartement luxueux de Varsovie. Et dans cet appartement, il va tomber sur quoi? Sur un piano.
Sur un piano, oui.
Alors, il va se mettre à jouer, et malheureusement pour lui, des Allemands qui passent dans le coin vont l'entendre, et un officier allemand va s'approcher. Il va être complètement séduit par la façon de jouer de Spielmann. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va l'aider à se cacher et à survivre pendant le restant de la guerre. Et puis voilà, donc à la fin de cette guerre, Spielmann essaie de retrouver son sauveur. Malheureusement, il ne le retrouvera pas. Je crois qu'il est
Il était parti sur le front russe.
Non, prisonnier en Russie, oui. Il a décédé, voilà. Et Władysław Spielmann a réellement existé. C'est en 1946 qu'il a publié ses mémoires qui ont servi à Polanski pour faire son film.
Pour faire le film, oui.
Et dans le rôle de Spielmann, énorme performance d'Adrian Brody.
Remarquable.
Qui va recevoir pour ce rôle-là, la même année, le César et l'Oscar.
Et l'Oscar du meilleur acteur.
Voilà. Donc c'est Le Pianiste, c'est demain soir 21h sur Canal+, grand écran.
Parfait.
Voilà, et vous Anne-Lise, vous avez quelque chose?
Eh bien, moi,
un film de Roman Polanski peut-être?
Non, pas du tout. On va rester dans cette fameuse période de la guerre de
39-45. Ah,
superbe guerre, oui.
Eh bien oui, avec le film Dunkerque qui va passer demain soir sur RMC Story de Christopher Nolan.
Ah oui, tout est demain soir.
Eh bien c'est fou, hein.
Ouais.
Avec Fionn Whitehead, Tom Hardy, yes. Kenneth Branagh, etc. Des sacrés acteurs qui sont dans ce film.
De quoi ça parle ?
Mai 1940, durant l'une des périodes les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale, alors que les forces britanniques et alliées se retrouve piégé sur la plage de Dunkerque face à une armée allemande remarquable. On va suivre des personnages qui vont se croiser au fur et à mesure du film. Donc on va les retrouver un petit peu à la manière de Magnolia ou Lantana, c'est-à-dire qu'on suit des personnages dans une situation et on va essayer, on va les retrouver avec une vision un peu différente d'un autre côté des personnages.
Oui.
C'est un très beau film de Christopher Nolan à voir demain soir sur RMC Story. Bon.
Très bien.
On aurait pu parler d'autres films, mais on ne va pas.
Oui, il y en avait d'autres qui étaient.
Bah, moi, j'en ai un autre, si vous voulez.
Alors, Les Grandes Gueules est un film franco-italien réalisé par Robert Enrico, sorti le 22 octobre 1965. Ne parlez pas en même temps que moi, s'il vous plaît. L'histoire dramatique combine le genre des films d'aventure, l'action et un certain contexte social. Mais de quoi parle le film, Annelise ?
Eh bien, le film parle d'Hector Valentin, un Français qui bûcheronnait depuis plusieurs années au Canada et qui est de retour dans les Vosges où il hérite de la scierie familiale après la mort de son père. Sur place, il constate avec dépit que cette scierie est en ruine, mais il décide de la faire revivre. Eh bien, sauf qu'une scierie plus moderne existe et que son propriétaire veut racheter celle de Valentin, histoire d'être le seul sur le créneau.
Alors, figurez-vous qu'il y a une légende stupide qui dit que la France ne sait pas faire des films d'action et encore moins des westerns.
C'est vrai.
Or, ici, c'est bien une fable de l'Ouest que le réalisateur Robert Enrico et le scénariste José Giovanni nous livrent. Et d'un grand cru, si vous voulez bien. Vous remplacez Monument Valley par le monde des scieries des Vosges, avec le méchant qui contrôle toute la région. Dans les westerns, c'est du bétail, mais ici, c'est des bois et des forêts. Et voilà qu'arrivent les héros solitaires, des ex-détenus qui vont aider les petits, les oppressés, et qui auront aussi leurs intérêts personnels, hein, faut pas croire.
Ouais.
On se croirait dans le Grand Ouest américain quand un petit groupe d'hommes fait front contre un adversaire plus nombreux et déterminé, tiens, par exemple, comme dans Rio Bravo ou dans Les Sept Mercenaires.
Alors, le groupe d'hommes est donc composé de détenus.
Oui.
Ils sont en liberté conditionnelle, mais ils sont des détenus. Enfin, du moins, c'est ainsi que pensent les villageois qui se méfient de ces arrivants. Valentin n'en pense pas moins. Et il faut une intervention de Laurent pour qu'il change d'avis et recrute ses hommes pour faire tourner son affaire.
Alors, Valentin,
oui.
C'est Bourville.
Non, mais dites donc.
Ah bah oui, bah c'est un rôle en or où il incarne le bon sens paysan, mais aussi la fragilité. Il débute par une détermination sans faille. Laurent, lui, bah c'est le monstre sacré du cinéma français, Lino Ventura. La force brute de l'homme qui ne change jamais de trottoir. Il a le regard clair et les yeux fixés sur l'adversaire. Bref, il n'a pas peur. La relation qu'il entretient avec Bourville est attachante, car elle n'est pas évidente. Tiens, voici d'ailleurs une interview de Lino Ventura et de Bourville pendant le tournage.
Pour le réalisateur, pour le producteur, pour toute l'équipe du film, il se termine. Enfin, il se termine bien, mais pour Bourville et pour Lino Ventura, c'est pas la même chose.
Oui, c'était prévu, remarquez, il n'y a pas de surprise. Il était prévu que le haut fer brûlerait et qu'il y aurait une bataille avec Lino et que j'irai dans l'eau.
C'est... Alors vous avez pris le bain.
Oui, oui, c'est pas tellement drôle, mais enfin il faut s'y résigner. Quoi.
Et vous ?
Bah moi pareil qu'André, à moitié grillé puis bien trempé quoi.
Vous en sortez pas trop mal quand même.
Bah, oui. Heureusement.
Oui. C'est pas facile. Hein.
Ça sent un peu le cochon brûlé, mais enfin c'est...
Et ce séjour dans les Vosges ?
Bah, oui, ça
un peu mouillé. Hein.
Oui, un peu, oui, c'est terrible. C'est général parce que les gens nous disent si vous étiez venu l'année dernière.
Pourtant, vous avez l'air très bronzé.
Et puis là, je suis sale en plus.
Oui, ça, c'est sa coquetterie qui lui fait dire ça.
Là, je suis. Je suis pas propre, comme d'habitude.
Non, quand il y a du soleil, évidemment, c'est merveilleux. C'est un merveilleux pays, oui, d'accord. Malheureusement, je crois qu'on n'a pas été gâtés.
On est mal tombé, quoi.
C'est sûr.
Oui, ils sont très très drôles tous les deux,
oui,
hein,
oui,
dans
oui.
leur interview.
Surtout,
alors, oui. José Giovanni a écrit une histoire d'homme, bon, oui. comme il fait tout le temps, hein, d'ailleurs, il ne va pas raconter autre chose. Des durs à cuire. Le fait que cette œuvre ait été filmée dans le merveilleux élément naturel amplifie l'authenticité et la dramaturgie de l'intrigue. Nous avons le privilège d'assister à ce merveilleux face-à-face entre Bourville, saisissant d'émotion et démontrant avec ce rôle dramatique les immenses facettes de son talent, et Lino Ventura, tout aussi émouvant et attachant.
Au terme de plusieurs années d'exploitation, le film enregistrera au total près de 4 millions d'entrées. Ouais. Les Grandes Gueules restent un film d'une époque qui est toujours agréable de revoir, encore et encore. Allez, deux petites anecdotes pour finir. Deux pistes de ski de la station de la Bresse-Honeck portent le nom de Bourville et des Grandes Gueules.
Ah non, des gens skient sur Bourville.
Tout à fait. Ouais, c'est vrai. Et en 2016 a eu lieu à Vagney une représentation du spectacle vivant Les Grandes Gueules pour fêter les 51 ans de la sortie du film. Voilà les deux petites anecdotes.
Ah, merci.
Formidable.
Formidable. Mmh. Puis, allez, la bande originale du film, oui, très western, est signée François Droubet.
Ah oui.
Être assez aimable à l'heure qu'il est, au jour où nous sommes, et étant donné ce que nous savons, de me dire sur quelle longueur d'onde on vous attrape.
Ben, tout de suite. Alors nous sommes sur 91.3, sur Odo Radio, et bien entendu.
L'année 1965 se déploie comme un véritable parcours, révélant au fil des mois un art traversé par des tensions entre continuité et remise en question. Dès le début de l'année, le cinéma semble encore solidement ancré dans ses formes classiques. En hiver, le succès international de La Mélodie du Bonheur de Robert Wise rappelle la force du modèle hollywoodien traditionnel. Un récit limpide, un spectacle fédérateur et une vision du monde encore optimiste. Ce type de production domine les écrans au début de 65 et témoigne d'un cinéma rassurant qui répond aux attentes d'un large public.
Attends, c'est un peu rapide.
Mais rapidement.
J'ai fait un peu trop vite, quoi. D'autres propositions viennent fissurer cette apparente stabilité. Alors en France, au tournant de l'hiver et du printemps, Agnès Varda présente Le Bonheur. Sous ses couleurs éclatantes et sa mise en scène apparemment simple, le film développe une critique radicale des valeurs familiales et du bonheur conjugal. Ce décalage entre forme et fond illustre parfaitement l'esprit du cinéma moderne des années 60. Et déjà bien installé en 65, un cinéma qui interroge plutôt qu'il ne rassure. Tiens, et vous allez être d'accord avec moi.
Ah ben oui, alors.
Patrick et Anne-Lise,
oui,
au cinéma, ailleurs, et comme toujours d'ailleurs, dans les années 60, il fallait bien vivre.
Bah oui.
Alors place à quelques réclames, comme on disait à l'époque.
Balzac 0001.
Vous habitez la campagne, vous êtes artisan ou fermier, mais le temps compte pour vous de la même façon. Et après le travail, il faut la nourriture abondante, rapidement et bien préparée. La cuisinière électrique est propre, pratique. Elle assure une cuisson rapide et régulière. Cher, 5 francs par repas et par personne.
100 sous? T'entends la Jeanne?
La cuisinière électrique, c'est la solution moderne.
Pas vrai?
Dame! Oui. Cuisine électrique, cuisine pas chère.
C'est la vie, en beauté, puis en liberté. Élégante, souple, heureuse, libre, elle porte gaine et soutien-gorge.
nos boîtes de guêpes.
Gaieté, force, dynamisme, tout cela est à votre portée, tout cela est contenu dans la bouteille de l'excellent vin Chantauvent. Chantauvent, le vin qui conserve la jeunesse.
Santé, vite à pointe.
Le seul produit reconstituant la des cheveux, le sébum.
Souplesse, vite à pointe.
Vos cheveux bouclent, vos pointes roulent, vos ondulations se reforment.
Brillant naturel, vite à pointe.
Pas d'éclat factice, vite à pointe est entièrement assimilé par le cheveu.
Très peu de vite à pointe pour les cheveux normaux, moins encore pour les cheveux fins.
Bravo Figaro, bravo Bravissimo, c'est vite à pointe.
Les toiles à matelas, à sommier, sont en lin. Les meilleurs draps sont en lin. Le beau linge que l'on se transmet de mère en fille, les torchons, les mouchoirs, tout cela est en lin solide et beau. Exigez toujours l'étiquette fleur bleue, garantie pur lin.
Pour toute publicité sur cet écran, Ciné France Publicité, 59 rue Saint-Lazare, Paris 9e.
J'ai noté l'adresse pour aller voir si ça existe.
Et ça existe encore, hein.
Ouais, oui,
oui. Ouais, ouais. C'est ça qui est incroyable.
Ouais, mais enfin, les pubs ont changé quand même.
Oui,
hein.
Oui, quand même.
Le registre n'est pas tout à fait le même. Oh. Le machisme était un peu de rigueur. Non,
vous croyez ? Non, très peu. Allez, au printemps 65, la modernité s'affirme encore davantage avec Jean-Luc Godard. En mai, Alphaville détourne les codes de la science-fiction pour proposer une réflexion politique sur le langage, la technologie et le contrôle social. Quelques semaines plus tard, Paris vu par, film collectif réunissant plusieurs cinéastes de la nouvelle vague, brosse un portrait fragmenté de la capitale. Le cinéma français de 65 apparaît alors comme un laboratoire formel où la narration classique est mise à distance au profit de l'expérimentation.
Alors l'été marque un autre tournant avec le renouvellement des genres populaires. Pour quelques dollars de plus, de Sergio Leone sort au cours de la saison estivale. Ce western, loin des codes héroïques américains, propose des personnages ambigus, une violence stylisée. Leone transforme un genre ancien en miroir des désillusions contemporaines. Dans le même temps, des films comme The Hill de Sidney Lumet témoignent d'un regard plus sombre sur l'autorité et la condition humaine.
Et à l'automne, la modernité cinématographique atteint une forme de radicalité assumée. En octobre, Federico Fellini dévoile Juliette des Esprits, plongée subjective et colorée dans l'inconscient féminin qui rompt avec le réalisme traditionnel.
Puis en novembre, Godard frappe à nouveau avec Pierrot le Fou. Ce film, souvent considéré comme l'un des emblèmes de 65, explose les cadres narratifs. Citation, rupture de ton, adresse au spectateur, le cinéma devient un espace de réflexion politique et poétique, en prise directe avec le malaise de la société contemporaine. Ainsi, 1965 apparaît comme une des années d'une grande diversité esthétique et géographique où le cinéma mondial oscille entre tradition remise en question et modernité assumée.
Et figurez-vous, figurez-vous que le 6 juillet 65 a lieu à Londres la première du film Help, réalisé par Richard Lester avec les Beatles en vedette. Alors, allez savoir pourquoi le film est dédié à la mémoire d'Elias Howe, l'inventeur de la machine à coudre.
Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help, when I was younger, so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. I've changed my mind and opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? And now my life has changed in oh so many ways. Seems to vanish in the haze.
now these days are gone, I'm not so self-assured.
Now I find,
now I find I've changed my mind, I'll open up the doors.
Constatons avec Jean-Jacques que ça n'a pas pris une ride.
Tout à fait, morceau. Je suis tout à fait d'accord avec vous.
Et pourtant, on est en 1965 et le quatrième trimestre de cette année-là est celui des premières.
Ah.
Le 15 novembre, dans la plaine couverte de sel de Bonneville Salt Flats, dans le nord-ouest de l'Utah, aux États-Unis, Craig Breedlove, aux commandes de Spirit of America, bat le record de vitesse terrestre sur un mile départ lancé. Il atteint la vitesse de 966,961 km/h.
Fichtre.
Le 26 novembre, première mise en orbite d'un satellite par une fusée ni américaine ni soviétique, avec le lancement du satellite Astérix par la France, qui devient ainsi la troisième puissance spatiale.
Ça ressemble à une blague, mais
oui,
non,
c'est clair.
Et enfin, le 19 décembre, figurez-vous que les élections vont se passer à cette époque-là, a eu lieu donc juste avant l'élection au suffrage universel du président de la République française. Et le vainqueur, c'est Charles de Gaulle, réélu avec 55,2% des voix. Il bat le candidat de la gauche, François Mitterrand. La campagne électorale est marquée par l'apparition des sondages et pour la première fois dans l'histoire, la télévision joue un rôle important.
Participation électorale aussi élevée qu'au premier tour, telle aura été la première constatation des représentants de la presse réunis au ministère de l'Intérieur et du public polarisé autour des écrans de télévision pour connaître les résultats du second tour de l'élection présidentielle. Il n'était plus que deux en lice. Les choses sont allées très vite, et dès 23h, M. Mitterrand reconnaissait sa défaite.
Je me réjouis de l'union de la gauche, qui m'a permis de lutter pour la République dans ce deuxième tour de scrutin.
Les résultats affluaient, et un peu plus tard, les chiffres définitifs pour l'ensemble de la métropole étaient officiellement proclamés.
Charles de Gaulle, 12 millions... 868 661, soit 55%.
Ainsi, le général de Gaulle est réélu pour 7 ans président de la République.
D'accord.
Bon, on essaie de noter.
Bon, très bien.
Et alors, Annelise, vous êtes là ?
Annelise ?
Oui, pardon, excusez-moi, j'étais pas sur la bonne page.
Vous n'avez pas battu le record du monde de la
vitesse ? Non, tout à fait. Dans le train couchette Paris-Marseille, ou Marseille-Paris plutôt,
oui.
La jeune Bambi fait la connaissance de Daniel. Elle le fait entrer subrepticement dans son compartiment qui a une couchette de libre. Le lendemain matin, l'une des voyageuses est retrouvée morte étranglée.
Oh.
L'inspecteur Gradiani se met sur l'affaire.
Alors, adaptation d'un roman de Sébastien Japrisot, Compartiment tueur, sorti le 17 novembre 1965. Et le premier long-métrage de Costa Gavras, qui avait été auparavant assistant de René Clément. Et c'est sur le tournage de Le Jour et l'Heure, de Clément, qu'il est devenu très ami avec le couple Montand-Signoret. L'acteur l'aidera beaucoup à monter son premier projet. Bon, retour à l'histoire. Une jeune fille, Bambi, monte à Avignon dans le train couchette du Marseille-Paris. Dans son compartiment, où se trouvent déjà 4 personnes, reste une place vide. Elle la propose à Daniel, un jeune homme qu'elle a rencontré dans le couloir et qui voyage sans billet. Le lendemain matin, à la gare de Lyon, une jeune femme, Georgette Thomas, est trouvée étranglée dans le compartiment. L'inspecteur Grazzi, assisté de son jeune adjoint Jean-Loup, cherche à interroger les voyageurs du compartiment. Mais l'assassin, toujours très bien renseigné sur le déroulement de l'enquête, prend la police de vitesse et abat successivement les 4 passagers.
Mais c'est horrible. Les soupçons de l'inspecteur, qui s'étaient d'abord portés sur Bob, l'amant de la victime, puis sur Eric, celui d'une actrice, se perdent dans le brouillard. Mais Daniel, le voyageur clandestin dont l'assassin ignore la présence, va tout faire pour protéger Bambi, dont il est tombé amoureux. Alors l'inspecteur Graziani, on ne sait plus bien qui c'est, découvre finalement que Georgette n'avait été assassinée que pour détourner l'attention de la police sur le crime de l'actrice. Après une poursuite mouvementée à travers Paris, le véritable coupable, on ne vous dira pas qui, préférera se suicider plutôt que d'être arrêté. Car voici un extrait où Charles Denner est aux prises avec Yves Montand et Pierre Mondy.
Georgette est morte à 30 ans.
Le chagrin que j'ai ou j'ai pas ne regarde pas, monsieur l'inspecteur. Sauf votre respect, les flics me dégoûtent ou me donnent envie de rire. En ce qui vous concerne, je sais pas encore. Ce serait plutôt la deuxième catégorie. S'imaginer que moi, Bob, je me suis donné le ridicule de commettre un crime passionnel, et encore, en seconde classe, mais c'est triste.
D'abord, on n'a pas volé Georgette.
Parce qu'il n'y avait rien à voler. Ensuite, elle était trop bien pour connaître quelqu'un d'assez moche pour la tuer. Même un flic peut comprendre ça. Enfin, si l'on peut se fier à la phrase ignominieuse d'un journaliste, il a fallu 3 minutes à Georgette pour mourir. Et quand je pense à ces 3 minutes, j'ai envie de faire sauter Paris. Parce que c'est pas la peine de suivre les cours du soir de la préfecture de police pour comprendre que 3 minutes, c'est un peu trop pour un professionnel, et que le salaud qui a fait ça, c'est un amateur et de la pire espèce.
Ouais, allons-nous-en, parce que je vais lui casser la gueule et ce sera râpé pour mon avancement.
Bonsoir.
Mais il s'en va comme ça.
Gardien ! Attrapez-moi cet énergumène et foutez-le-moi au dépôt !
Formidable, Charles.
Oui, on ne dira jamais assez que Charles Denner était un extraordinaire acteur.
Alors, on passe pour lier le film, mais c'est pas lui l'assassin. Je ne sais pas qui c'est. Quoi.
Non ?
Non, parce que l'histoire est une belle variation sur le crime parfait qui nous laisse dans le brouillard pendant la plus grande partie du film. Le récit prend en outre la peine de bien explorer ses personnages en profondeur. Compartimentueur a permis à Costa Gavras de prouver qu'il était capable de réaliser des productions importantes. Le critique saluera le brio de la mise en scène et la maîtrise de la direction d'acteurs. Et le film sera aussi un succès, notamment, ce qui est toujours plus rare pour un film français, aux États-Unis, où il sera classé parmi les 10 meilleurs films étrangers de l'année. Rien que ça.
Un cadavre, un inspecteur, 5 passagers et un mystère qui s'épaissit au fil de l'intrigue, connu surtout pour son cinéma politique, Costa Gavras signe un polar plein d'esprit rythmé à la faveur de courses-poursuites, travelling et plans d'une folle inventivité.
Alors la distribution, elle, bon, on en a vaguement parlé plus haut, mais réunit de grands acteurs et des seconds rôles du cinéma français d'après-guerre. Allez, on y va. Oui. Montand. Oui. Signoret, oui. Jacques Perrin, Michel Piccoli, Pierre Mondy, Pascal Robert, Charles Denner, mais aussi Jean-Louis Trintignant et Bernadette Lafont. Et n'oublions pas l'entêtant gimmick pop de Michel Magne.
Tiens, bonsoir. Alors, t'étais aux premières loges ? C'est génial ce genre de spectacle, hein ?
Ça, c'est vrai, ça !
Bon, alors, demain matin, dès que vous vous levez, vous foncez à une salle de cinéma pour voir les films qui sortent mercredi. Enfin, vous attendez d'abord que les portes du cinéma ouvrent.
Que les portes du cinéma ouvrent, parce que sinon...
Ça peut être pas mal, oui.
Bon, mais alors, vous allez, chacun d'entre vous et d'entre nous et d'entre moi et d'entre tout le monde...
D'entre mon même aussi,
oui, bien sûr. Bon. Proposer un film à aller voir demain dans les salles.
Oui, tout à fait.
Tout
oui.
Neuf, tout beau.
Qu'est-ce que vous avez quoi ?
Eh bien, moi, j'ai un film de Mitsuo Miyazaki.
Tiens donc.
Mais qui n'est pas de la famille des Miyazaki.
Non.
Ah bon ?
Même pas le neveu, rien.
Non.
Oh, ben.
Ça s'appelle Rental Family dans la vie des autres.
Ah bon.
Et avec Brandon Fraser, Mari Yamamoto et Takehiro Hira. Le Tokyo de nos jours, un acteur américain qui peine à trouver un sens à sa vie, décroche un contrat pour le moins insolite. Jouer le rôle de proche de substitution pour de parfaits inconnus en travaillant pour une agence japonaise de famille allouée. En s'immisçant dans l'intimité de ses clients, il commence à tisser d'authentiques relations qui brouillent peu à peu les frontières entre son travail et la réalité. Confronté aux complexités morales de sa mission, il redécouvre progressivement un but, un sentiment d'appartenance et la beauté sereine des relations humaines. Ça a l'air d'être un film tout en humanité et tout en douceur aussi. La réalisatrice avait été, il me semble, nommée à Cannes ou quelque chose comme ça il y a quelques années.
Pour un film dont on ne rappelle plus le titre aussi.
Rental Family.
Non, voilà, et là, non, là c'est le film de celui qui sort.
L'autre, d'accord. Oui,
un autre film.
Excusez-moi. C'est un gage de qualité, on va dire.
Voilà, en tout cas, ça a l'air d'être un très joli film.
Très bien, très bien. Après,
je vais y aller si vous voulez.
Un.
Un film de Valérie Donzelli, tiens.
Ah.
On va parler français un petit peu.
Yeah.
Hein. Avec un comédien fabuleux que j'aime énormément, qui s'appelle Bastien Bouillon. Un autre comédien fabuleux que j'aime énormément, qui s'appelle André Marcon.
Ah oui.
Et une comédienne absolument fabuleuse que j'aime énormément, qui s'appelle Valérie Ledoyen, Virginie Ledoyen.
Pas Valérie, ça c'est ça.
C'est Valérie Bonneton, c'est pas la même crêberie.
Alors, mais de quel est le nom du film ?
Ça s'appelle À pied d'œuvre.
Ah voilà.
Ah.
Achever un texte ne veut pas dire être publié.
C'est vrai.
Être publié ne veut pas dire être lu.
À qui vous le dites ?
Être lu ne veut pas dire être aimé. Et être aimé ne veut pas dire avoir du succès. Et avoir du succès n'augure d'aucune fortune. À pied d'œuvre raconte l'histoire vraie d'un photographe à succès qui abandonne tout pour se consacrer à l'écriture et qui découvre la pauvreté et la précarité. Alors, c'est avant tout un portrait humain que chacun jugera à l'aune de ses propres convictions. C'est une œuvre politique assurément, mais non dans le jugement, mais dans l'évocation, et dont la légèreté permet de demeurer sur une tonalité, mais pas si pessimiste que ça. Notez que le film a eu le prix du scénario à la Mostra de Venise en 2025.
Très bien.
C'est une interprétation donc très très subtile de Bastien Bouillon. Vraiment, je vous le recommande parce que ça ouvre à 10h à Utopia. Eh ben, courez là-bas parce que ça va être magnifique.
Enfin, courez, ça dépend d'où vous arrivez parce que si vous habitez Angoulême.
Oui, allez-y en douceur quand même, malgré
oui,
tout.
Oui, on pourrait se claquer, c'est vrai. Jean-Jacques.
Oui, vous parliez de photographie, de photographe à l'instant.
Oui, alors, à l'instant, avec Bastien Bouillon.
Pour ceux qui ne le connaissent pas, Raymond Depardon est l'un des plus grands noms de la photographie et du cinéma.
On est d'accord.
C'est un fils de paysan, voilà, qui a découvert la photographie tout enfant et qui a choisi d'ailleurs pour mon premier sujet la ferme de ses parents et l'environnement rural qui le marquera profondément pour le reste de son carrière, de son travail. Alors depuis le 22 octobre dernier, son œuvre cinématographique est de retour en salle, en version restaurée par les films du Lousange. Ce grand témoin de la France et du monde contemporain, il déploie une œuvre colossale et qui est à voir dans cette rétrospective composée de 4 cycles et de 21 films. Alors donc, je vous ai dit, ça a commencé le 22 octobre avec le Depardon citoyen. Demain, ce sera le Depardon photographe. Et puis, on finira le 4 mars par le Depardon paysan et le 29 avril, enfin, par le Depardon et l'Afrique. Une œuvre gigantesque à voir et à revoir qui explique
un peu le somme.
Qui explique le fonctionnement de la société dans toutes ces strates. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Non, c'est une excellente idée.
Très beau film. Bon. Et voilà, Ciné-Sans, c'est déjà fini. Jusqu'à ce que tout recommence, bien sûr.
Ça va recommencer un jour.
Vous allez pouvoir revenir dans le temps présent, mettre vos AirPods sur vos oreilles, mettre votre casque à réalité virtuelle et regarder assis dans votre canapé ou dans un fauteuil de cinéma devant le dernier film en 4D. Mais en attendant, n'oubliez pas d'écouter le podcast de l'émission que vous allez retrouver sur le site d'Ode Radio, rubrique Ciné-Sans, ou alors nous suivre sur nos réseaux sociaux. Attention, message important, Ciné-Sans va fermer ses portes pendant 2 semaines.
Nous fermons nos portes pendant 2 semaines.
Tout à fait, le temps de refaire le plein de pop-corn pour ceux et celles qui aiment ça, et le temps aussi d'augmenter notre catalogue de films. Ce sera donc le 24 février que nous nous retrouverons en direct pour aborder les films censurés.
Et ce sera bien sûr sur Ode Radio 91.3, bien entendu.
En attendant, on se quitte avec la perle musicale du jour dénichée par Jean-Jacques, et on reste en 1965.
Oui, alors en effet, on va rester en 65. Alors, des acteurs qui chantent, on en connaît beaucoup.
Il y en a un paquet.
En voici un qui est plus, en plus, est parolier. Ouais. En 65, Jean-Yann écrit, compose et chante « Pourquoi m'as-tu mordu l'oreille ?» Une chanson qui parodie Charles Aznavour.
Allez, au 24 février et en attendant,
bon vent à tous.
Tout dans notre chambre quand nous nous regardons. Devant les draps froissés par une nuit commune, baissant nos 4 yeux, soudain nous comprenons notre affreux désespoir, notre immense infortune. Nous sommes les victimes à jamais séparés d'un phénomène qui dissocia notre couple, et comme l'araignée contemplant le fil souple de sa toile qu'un vieux balai vient de crever, nous voyons se dresser le souvenir tragique de ce qui fut pour nous un amour extatique. Et devant les débris de notre passion, soudain dans mon esprit s'infiltre une question. Pourquoi m'as-tu mordu l'oreille? Pourquoi pris-tu mon lobe entre tes dents? Et me le happas-tu de ta bouche vermeille quand le tango nous grisait d'un rythme troublant? Ta tête était sur mon épaule, tu m'as dit penche-toi que mes lèvres te frôlent. Mais de tes incisives longues et pointues, pourquoi pris-tu mon lobe et me le mordis-tu? Depuis ce jour, vois-tu, la vie n'est plus pareille, car entre nous le lien de l'amour s'est brisé. Depuis que tu m'as mordu l'oreille, nous vivons comme des étrangers.